Bienvenue sur les podcasts de Blast, un média indépendant créé pour redonner du souffle à l'information. Blast vous propose un autre regard sur l'actualité, à travers des reportages, des décryptages, des enquêtes et des entretiens que nous avons décidé de convertir ici en podcast. Notre ambition, devenir votre média de référence et ainsi peser dans la bataille de l'information qui s'annonce et qui sera décisive.
L'édito avec Denis Robert.
Nous avons eu l'occasion de changer le monde. Nous avons préféré le téléachat. Stephen King.
Si vous achetez notre boule magique, nous, on va se faire
du fric magique.
C'est l'histoire d'un type réveillé par un coup de sonnette, un matin tôt. Le type va ouvrir, il est convoqué à la police pour une audition.
Oui, c'est moi,
police nationale.
Il est prof, syndicaliste. Il réfléchit à ce qu'il a à se reprocher, ne voit pas. Il va au commissariat de Brest et tombe sur un policier plutôt sympa qui lui annonce avec un air emmerdé que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a porté plainte contre lui pour injure publique et diffamation. Il lui fait répéter deux fois et le flic sort un tract de son syndicat Sud Solidaire Éducation. Le tract remonte au 12 octobre 2023. « C'est bien vous, le directeur de publication ?» demande le flic. Le syndicaliste réfléchit et se repasse le film. « Oui, c'est moi. » Après les attentats de 2015, un protocole a été signé entre le ministère de l'Éducation et celui de la Défense, portant sur la création de classes où des gendarmes, des gardiens de prison, des pompiers ou des soldats peuvent intervenir. Il existe environ 500 classes dites « Défense et sécurité globale » en France aujourd'hui. Elles concernent 12 500 élèves de seconde et de première. Les contenus de cet enseignement, nous apprend le tract, sont des exposés didactiques sur les risques et menaces qui pèsent sur nous. Les militaires apprennent aux lycéens que l'armée, c'est plus cool que ce qu'ils imaginent et que s'ils veulent la paix, il faut préparer la guerre. Les enseignants en uniforme sont aussi dans les lycées pour apprendre à identifier l'ennemi. Là, ça commence à sentir le boulet et le barbu. Le tract dénonce des ateliers où des lycéens s'initient à fouiller une cellule. Là, tu vois, petit, le détenu peut planquer un téléphone ou du shit. On leur apprend aussi le tir au pistolet. Attention, ce ne sont pas de vraies balles. Laser, le pistolet. Mais quand même, un pistolet, ça sert éventuellement à tuer. N'assistons-nous pas à une forme d'endoctrinement, à un patriotisme désuet et résolument réactionnaire, interroge le tract, avant d'ajouter, ô sacrilège, que cet enseignement par des militaires et autres gardiens de prison pourrait être miné par une culture droitière, misogyne et homophobe. Pour appuyer leur thèse, les auteurs du tract citent des articles de presse indépendante dénonçant les groupuscules nazis dans certaines casernes. On en a vu récemment les fils WhatsApp racistes de policiers, de gendarmes ou la répression violente des dernières émeutes de banlieue par des militaires pas trop républicains. Cette militarisation d'une partie de la jeunesse dans nos établissements frise l'endoctrinement et contraire aux valeurs de formation des citoyens, objectifs du système éducatif et contraire aux valeurs sociales et humanistes que nous défendons. Dans les établissements, s'opposer à de telles dérives est une nécessité, tense le tract avant de lancer face aux classes défense, défense de classe. C'est tout ? C'est tout. Ces dernières phrases ont particulièrement déplu à Gérald Darmanin, qui, après s'être attaqué au soulèvement de la Terre, à la Ligue des droits de l'homme, après avoir fait condamner un syndicaliste CGT dans le nord de la France, soutenant la Palestine pour apologie du terrorisme, s'attaque donc à un petit prof du Finistère qui énonce des évidences. Le prof s'appelle Olivier Cuzon et nous allons publier l'intégralité de son tract sur Blast et enquêter sur ses classes où on apprend le maniement des armes aux adolescents. On est avec toi, Sergio. Viens nous chercher, Gérald. Nous non plus, on ne veut pas que nos enfants soient éduqués par des militaires. Et en écrivant ces mots, je précise tout de suite que nous avons besoin des policiers et d'une armée en ordre de marche pour nous défendre. Mais chacun son métier. Olivier Cuzon a dû justifier chaque ligne de son texte. À la fin de son audition, il a demandé une copie de son PV, on lui a refusé. Comment ne pas voir là une tentative d'intimidation d'un petit militant syndical de province? Il y a ici une atteinte intolérable à la liberté d'expression d'un journal qui, par principe, a une expression engagée. C'est un coup de pression contre les militants qui s'expriment librement pour faire connaître leurs analyses des politiques gouvernementales, écrit-il dans un mail qu'il nous a envoyé. Il avoue qu'il ne s'attendait pas du tout à cette convocation et que c'est un gros stress pour lui. Une épée de Damoclès qui pourrait durer, ça fait peur d'avoir une plainte d'un ministre de l'Intérieur contre soi. Et ce qui m'inquiète le plus, dit-il, ce sont les conséquences à long terme. On a désormais une vigie dans la tête. La prochaine fois qu'on écrira un article qui pique un peu, on se dira « Est-ce qu'on va pas trop loin en écrivant ça ?» Ça ne nous est jamais arrivé. Si on en arrivait à tous, nous autocensurer, ça serait vraiment une terrible défaite. Et je crains que ce ne soit le cas quand je vois les réactions de mon entourage. C'est ce que je vis le plus mal. Tout est dit. Darmanin, couvert par Macron, adoubé par l'extrême droite, est heureux de faire monter chaque fois plus haut le curseur des atteintes à nos libertés. Quand j'ai parlé de cette histoire autour de moi, y compris à Blast, j'ai eu droit à des mots dubitatifs, genre « on en a vu d'autres, pas la peine d'en faire tout un plat ». Ben si, le diable se planque dans ce genre de détails. Darmanin, avec sa tête de premier communion et ses airs de ne pas y toucher, c'est carrément Nosferatu. Le type fait l'ange, mais il a un dessein. Et il ne fait rien par hasard. Souvenez-vous de ce que nous en disait Sophie Patterson.
Oui, M. Darmanin est un violeur. Et je le maintiens, et je le maintiendrai toujours.
Un type capable de vendre ses services contre une faveur sexuelle. Un type donc capable de ça, et capable de beaucoup pour arriver à ses fins. Surtout si c'est le pire qu'on imagine. Et avec Macron, depuis 2017, on n'est jamais à l'abri du pire. On le voit encore cette semaine en Kanaky, où les droits des Kanaks sont piétinés par l'inconsistance de petits blancs venus de Paris en conquérant et en costard Armani.
Arrivé hier soir, le président de la République affichait sa volonté de trouver une issue à la crise qui secoue l'archipel depuis mi-mai.
Et celui qui était chargé du dossier calédonien dans le gouvernement Macron a un nom ? Darmanin. En gros, et pour résumer, à mes yeux, aguerri à la farce politique, il y a plus nuisible que Macron. Cette catastrophe est logée place Beauvau et attend son heure. Depuis Sainte-Soline et l'envoi des troupes contre les écologistes, il la ferme, il obéit, il se tient en embuscade. Mais observez-le, il est déjà lui en 2027 et il navigue à vue comme un vieux briscard. Il en a avalé des couleuvres et il en a flingué beaucoup pour un seul horizon. Montrer qu'il peut rassembler sur son nom les macronistes et la droite, voire plus à droite encore si affinité. La semaine dernière encore, il se tapait les syndicalistes de la CGT et de la CFDT qui manifestaient en Bretagne pour sauver l'hôpital de Carhaix.
Ça va, monsieur, vous saignez ? Vous avez mal quelque part ?
Je ne sais pas.
Non, c'est là.
Là,
c'est
ouais.
Là.
J'ai une honte.
La manif remontait à 8 mois. La plainte pour séquestration de la direction, idem. Qu'à cela ne tienne, boum. 10 syndicalistes ont été placés en garde à vue. Fichage, ADN, clic-clac, photo, interrogatoire. Ils viennent sauver les urgences de leur hôpital, on les met en cellule. Quelle était l'urgence ?
Ces poursuites, elles s'inscrivent dans une répression sans précédent depuis 50 ans qui frappe aujourd'hui l'action syndicale et militante. En fait, leur point commun, c'est juste d'être en désaccord avec la politique du gouvernement.
En sortant, Caroline, une militante, résume son état d'esprit. On se sent dégradé, sali, comme si on était des criminels. C'est une violence qui n'est absolument pas justifiée. On ne peut que compatir. Dans les années 30, on a aussi arrêté des syndicalistes et des communistes. Les écoles ont également ouvert leurs portes aux défenseurs de la patrie allemande. Les militaires et les nazis sont entrés dans les classes pour donner des cours sur la grandeur de l'Allemagne, puis sur la supériorité de leur race. Des journalistes et des profs ont été poursuivis et moqués. La presse, une autre presse, a applaudi. On sait comment ça s'est terminé. On va me dire qu'il y en a marre de ce parallèle oiseux. Mon point Godwin. Ben non. Je vais y revenir et expliquer pourquoi ce parallèle qui n'est pas oiseux avec les années 30 est saisissant.
Cette nouvelle langue, adoptée par tout le monde de façon mécanique et inconsciente, comme un poison qu'on avale à petite dose sans y prendre garde, fut pendant ces années de misère mon unique sujet d'étude.
Mais avant, j'aimerais vraiment en faire tout un plat de ces atteintes inadmissibles à la liberté d'expression et à celle de s'en prendre à ce gouvernement ou à ses ministres très incompétents. Écrire un édito, c'est un peu comme monter une sauce ou faire du beurre avec du lait. On tourne en rond, on ressasse, on cavale, on se bat et à un moment, ça se fige. On est un peu comme ces souris décrites par le coach du FC Metz, Laszlo Bologny.
Il y a deux souris dans la bouteille. Et puis, il faut sortir, il tombe, il sort, il tombe, il ne peut pas sortir. Et puis, un renonce et il meurt. L'autre, il continue. Vous savez, les agriculteurs, ils peuvent confirmer que si tu fais ça, ça devient du beurre. Et puis l'autre souris, il mange du beurre, il sort, il est costaud parce qu'il s'est battu, il n'a pas renoncé.
On a toujours le choix. On peut baisser les bras ou lever les yeux, faire l'aquaboniste ou se battre. Dans ma vie avant Blast, je regardais le monde avec un œil d'apothicaire. Je pensais que les livres pouvaient changer la vie des gens. Je me suis mis à la peinture. Je ne regardais pas la télévision. Je m'étais fabriqué un monde et des œillères. Ma dernière toile remonte à 2018. La voici. Déjà, les gilets jaunes me travaillaient. J'aimais bien écrire à la craie des mots qui m'habitaient. Oh, mécanismo. C'était en référence au scandale à répétition de corruption au Brésil qui allait amener ce fou de Bolsonaro au pouvoir.
Uma polícia civil e militar que defesa do povo atire para matar.
C'était l'idée qu'un mécanisme corrupteur, perpétuel, implacable, nous cible et nous met en rage. Cette idée que quand on se sent enfermé, seule une énergie vitale peut nous aider à sortir du cercle. Comment échapper à son destin? Comment résister aux mécanismes qui nous endort et nous paralyse? Qui nous fait accepter notre condition d'humain soumis à des règles dictées par d'autres sur lesquelles nous avons de moins en moins de prise? Ce sentiment d'échec, d'étouffement. J'ai décidé d'être une souris qui se bat. Merci, coach Laszlo. Et bonne chance pour le match de dimanche.
C'est bon, bisous.
Pourquoi un pays aussi riche que le nôtre produit autant de pauvreté? Pourquoi s'y habituer? L'Europe a mal grandi et s'est déshumanisée. Les USA ont perdu de leur puissance et se préparent à un combat de vieux coqs, plus proche du cercueil que de la résurrection. L'avenir est embrumé. Le monde est une vieille cocotte minute qui brûle à feu doux. En France, depuis l'arnaque de cette élection de 2017, il y a ces atteintes aux libertés. Il y a aussi la plongée abyssale de notre politique étrangère. Avant, en cuisine, on avait De Gaulle, Mitterrand. Même Chirac avait la confiance des peuples du Sud et du Moyen-Orient. Les affaires ont commencé à merder avec Sarkozy. Et depuis, on plonge. La France a perdu de son influence sur les affaires de la planète. En Asie, en Afrique, au Moyen-Orient surtout. Où avec le soutien aveugle à Israël et le déni de réalité qu'il implique, ça devient pathétique.
Et notre soutien inconditionnel.
Perdre autant de crédit en si peu de temps, c'est une forme d'exploit olympique. Depuis 2017, les corps intermédiaires ont disparu. Les rapports humains se sont durcis.
Je t'ai déjà appelé.
Hein?
Est-ce que je t'ai déjà appelé,
moi? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés.
Je te dis...
L'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé. Le journalisme a perdu sur presque tous les fronts. À la fin des années 80, et la mort de Renaud Van Ruymbeek est venue nous le rappeler, les juges d'instruction tiraient leur dernière cartouche. Et les ministres démissionnaient quand ils étaient mis en examen. Aujourd'hui, jurisprudence Macron, plus tu as de casseroles, plus tu as de chances d'entrer au gouvernement. Aujourd'hui, en France, Macron tire ses dernières cartouches et prépare sa sortie. Derrière le sempiternel enfumage Macron-Le Pen apparaissent maintenant Attal et Bardella comme tête de gondole médiatique. le vide de la pensée politique devient sidérant et ce n'est pas le dernier débat pour les élections européennes qui peut nous regaillardir.
La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez ? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui ?
Darmanin s'en fout. Il sait que ce sont de petits télégraphistes à durée de vie limitée. On a toujours Alexis Kohler à l'Élysée, malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, et Meyer Habib à l'Assemblée, malgré ses neurones carbonisés.
Les Palestiniens prennent comme bouclier humain les femmes, les enfants, ils ont la culture de la mort. J'ai vu une mère qui a perdu 3 enfants, elle faisait des youyou en disant « j'ai envie de donner les 7 autres ».
Éric Ciotti, leader de la droite décrépit, mais avec une obstination remarquable, sa haine des Palestiniens et sa vanité insondable au service d'Israël. Lui, qui est dans le collimateur de la justice pour une nouvelle affaire de détournement de fonds publics, veut aussi privatiser la SNCF et interdire les grèves.
Moi, je viens de déposer, je le ferai, une proposition de loi visant à privatiser la SNCF.
Privatiser
oui,
la SNCF.
Aujourd'hui, ça suffit.
En France, quand on croit toucher le fond, il y en a toujours un qui creuse. Éric Ciotti est très fort pour enfoncer le pieu de l'aberration toujours plus loin. C'est son utilité. On le regarde ébahi, on se dit non, il ne va pas oser. Bah si. Darmanin a besoin de Ciotti pour qu'on oublie les siennes d'insanité. Les médias mainstream aiment ce genre de personnages, prêts à tout pour qu'on les cite. Et puis Darmanin est ministre de l'Intérieur. Il a sa cour, ses affidés, ses entrées à Paris Match. Il occupe le terrain avec des déclarations de plus en plus crasseuses. Pauvre petit esprit pervers. Et oui, j'en ai pas mal contre lui aujourd'hui. Mais j'écris ces mots sans haine et sans colère particulière. Il est suffisamment protégé par d'autres et il fout la trouille. Même Bernard Arnault a confessé qu'il pourrait faire un bon président. Je ne dis pas que Bernard Arnault a la trouille, non. Mais après s'être bien servi de Macron, il a besoin d'une tête de pont à l'Élysée. Bolloré a déjà Le Pen. J'ai idée que le moment venu, il pourra mettre ses journaux à son service. D'ailleurs, je prends un risque aujourd'hui en m'attaquant au chef de la police. Et comment dire ? Je m'en fous. Je suis à Blast. Je me sais protégé par tous ceux qui s'abonnent et nous soutiennent. L'argent sert à nous faire gagner un peu de liberté. J'arrive facilement à décrypter leur jeu. Vous avez entendu, Darmanin, après la mort des gardiens de prison ?
On peut pas à la fois, c'est ce que je veux vous dire en quelques instants, pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joint.
Cette sortie fait partie du bruit médiatique. On l'oublie vite. Les poursuites contre Netanyahou ont déjà tout écrasé. Mais moi, ça ne passe pas. On ne peut pas dire n'importe quoi et agiter toutes les peurs pour faire grimper les haines en permanence. Espèce de tocard. Tocard, ça va, Julien. Ce n'est ni diffamatoire, ni injurieux. Julien, c'est notre avocat. J'aurais pu dire cabot ou fausse valeur ou tartignole. Mais bon, tocard, c'est plus explicite. C'est un mot de turfiste. Ça désigne au départ d'une course un cheval qui fait illusion.
On a l'impression qu'il a trébuché.
Exactement. Hop là, ouais.
Les présidentielles, c'est ça, une course. Ce n'est pas le fumeur de joint qui est responsable de ces morts. C'est toi et ton patron, avec cette constance que vous avez à ne pas vouloir écouter les autres pays qui tous, les uns après les autres, légalisent le cannabis et condamnent ainsi les dealers à la faillite. C'est tellement simple à comprendre. Même le Luxembourg nous donne une leçon de civisme et d'intelligence. Et croyez-moi, avec le Luxembourg, on part de loin. Accuser les petits fumeurs de joint d'être responsables de la mort des gardiens de prison, c'est honteux. C'est un signe supplémentaire de ton aveuglement, Gérald. Ta soif de pouvoir ne peut pas tout excuser. Une photo est sortie cette semaine sur Twitter. Gérald s'est fait offrir un fouet par un député macroniste. Était-ce pour mater les hordes de canaques ? Au-delà du fouet, il y a ce sourire carnassier et cette complicité affichée sur la photo avec le député Caldoche. Remarquez, ça peut faire sourire ou vomir. On voit bien cette collusion entre les deux hommes. Un cadeau du député Caldoche, Nicolas Metzdorf. C'est un fouet de tradition coloniale utilisé pour mener le bétail et donner un coup de fouet au dossier de la Nouvelle-Calédonie, a noté le député. Comment faire preuve d'autant de légèreté ? Comment avoir pu imaginer qu'en pleine crise entre colons et colonisés, ce fouet n'allait pas être vu comme un instrument rappelant la torture et l'esclavage. Le jeune député s'est empressé de rattraper le coup en tweetant « Pour les incultes, le stick whip est l'outil des vachers calédoniens qui l'utilisent pour rameuter le troupeau en le claquant dans l'air, ce qui émet un son. Ce n'est pas pour fouetter le troupeau, et encore moins les gens. Il sert à claquer l'air. » On est peut-être un culte en matière de vaches calédoniennes, et on n'est pas cons, nous. On voit ce qu'on voit, on lit ce qu'on lit, et on est édifié par tant de racisme et de médiocrité.
Il n'y a rien branlé, là. Hein pas les canards qui vont faire chier les blancs. Hein allez, bouge le cul, ça, enculé.
Et là, il n'est pas anti-blanc, le racisme.
Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaie de nous marcher dessus. Ça suffit, maintenant.
On l'oublie souvent, Darmanin. Mais selon un sondage qui m'est très personnel, c'est vraiment lui qui tient la rampe pour succéder à Macron. Plus tu dis de conneries en France, plus tu es repris par Morandini ou Pascal Praud, plus tu marques des points. Oh, mécanismo. Il n'y a pas tant de différence entre la France et le Brésil. Ils avaient juste l'Amazonie en plus et un peu d'avance niveau catastrophe. On les rattrape avec une ténacité épatante, comme si jamais nous n'apprenions de nos erreurs. On va bientôt nous présenter Darmanin comme un recours contre l'extrême droite. Alors que bon, vous la voyez la différence ?
Je trouve, faut vous reprendre des vitamines, vous êtes pas assez dur, je trouve.
Vous la voyez la grosse ficelle ? Vous entendez le bruit des bottes au petit matin ? C'est vous qui avez écrit ça ? Allez, au poste ! Connaissez-vous Alfred Hugenberg ? C'est lui. C'est le Bolloré de l'époque, avec un profil plus politique. Mais quand on s'intéresse à la montée du nazisme, il est bon de connaître les prémices et de voir le rôle joué par la presse et le cinéma avant l'avènement d'Hitler. Hugenberg était le président de Krupp, le géant de l'acier allemand, les fabricants de canons. Il était très riche, il aurait pu le rester, mais il était très anticommuniste et très con. Beaucoup plus con que Bolloré. Il pensait pouvoir se servir d'Hitler. Il s'est mis à acheter des journaux, des maisons d'édition, des radios, avec le but avoué de changer la mentalité des Allemands. Un papier du Monde Diplo, datant de 1977, l'explique. Alfred voulait développer la presse à sensation pour promouvoir un nouveau mouvement spirituel, afin de repousser l'influence croissante des idées libérales démocrates. En 1927, le rachat par Hugenberg de la plus grande société de production de cinéma d'Allemagne, l'UFA, a été un moment charnière dans la défaite de la liberté. Les intellectuels, les écrivains, les pacifistes, les communistes, les juifs n'ont pas compris que la première guerre était culturelle. Goebbels, le propagandiste du parti nazi, lui, avait compris.
Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein.
Une actrice suédoise lui avait tapé dans l'œil. Grande, belle, Zara Lander deviendra l'égérie des nazis et multipliera les tournages pendant la guerre. Ses films à l'eau de rose sont distribués dans les pays occupés et font passer quelques idées basiques sur la grandeur de l'Allemagne et le courage de ses officiers. Zara pousse même la chansonnette qui fait oublier les rafles. Je sais qu'un jour, un jour prochain, tu viendras sur mon cœur en me tendant les bras. L'Allemagne fredonne pendant qu'on prépare les chambres à gaz.
Einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr.
Alfred Hugenberg formera en 1931 un front national avec les nazis pour la destruction du mouvement révolutionnaire marxiste d'inspiration bolchevique. Il met son empire culturel au service de ce combat et deviendra pendant quelques mois à peine ministre de l'économie avant de rompre avec Hitler. Ce fut simplement en raison de la divergence d'intérêts existant entre un parti fasciste et un parti national conservateur, note le Diplo, qui cite également l'économiste Ludwig Bernhard à propos du consortium de Hindenburg. Ouvrez les guillemets. La vie publique dans un grand État moderne est caractérisée par l'affinité des conceptions politiques et des intérêts du monde des affaires. Une presse qui recherche une audience de masse ne peut se contenter de poursuivre ses propres intérêts, mais doit fournir des idées générales permettant de dépasser les antagonismes sociaux. 1928. Presque un siècle plus tard, on pourrait coller cette citation à l'appétit émancipateur du groupe Bolloré qui multiplie les acquisitions dans le cinéma, l'édition et les médias pour faire passer des messages de bon sens, de liberté, de grandeur de la France, de climato-scepticisme, de haine des insoumis, des Khmers verts et des islamo-gauchistes. Ils infusent dans tout le paysage avec leur Zeralender à eux.
Éric Zemmour, merci d'être notre invité.
Bonjour à vous, Éric Ciotti, et bienvenue.
Bonjour, Aurore Berger.
Bonjour.
Bienvenue dans la matinale de CNews.
Mais toi, t'es invité ici ou pas?
Mais j'ai le droit de critiquer les mots.
Dois-je continuer? Je sais, je suis déjà trop long. Les commentaires sur les réseaux, je les entends déjà. Retourne faire tes enquêtes, dégage, vieux con, gauchiste. J'ai pas l'impression de vieillir, ni d'être un gauchiste. Je suis toujours cet enfant qui observe le monde s'effondrer autour de lui et qui tente de le sauver. Les livres, les toiles, les films, les articles dans les journaux, même ses éditos sont comme des cailloux d'un petit poussé perdu dans une forêt. Chercher un chemin ou une clairière dans le bordel ambiant va me poursuivre jusqu'à la mort. Il y a ce livre de Marguerite Duras, « Barrage contre le Pacifique ». J'ai remis le bleu de chauffe pour bâtir un mur fait de vidéos, de textes. Même si mon dernier caillou est un rocher, j'ai l'impression que Blast, c'est un peu notre barrage contre cette marée noire et houleuse. En tout cas, c'est ce que vous me faites savoir par vos courriers ou quand je vous croise dans la rue, les poings levés, l'œil qui frise. Continuez, ne lâchez rien. Le combat que nous menons est celui de l'information et de la culture. Trois ans. Que je me lève Blast, que je me couche Blast, que j'essaie de faire tenir et de développer Blast. Je dis « je », mais je ne suis évidemment pas seul. On est plus de 40 aujourd'hui à écrire Le Monde tous les jours. Malgré les vents contraires, on se débrouille avec plus de 400 vidéos par an et encore plus d'articles et de podcasts. On est de plus en plus reconnus et soutenus. On n'est pas les seuls, mais on se bagarre. On donne tout pour contrer ce grain mauvais qui obscurcit l'horizon. On vit dans un pays dont tout le monde pense qu'il va devenir encore plus fliqué, plus militarisé, plus nationaliste. Un pays où le président est un jeune banquier, enfin plus si jeune, banquier libéral autoritaire, qui a peur de perdre ses cheveux et qui change très souvent d'avis. C'est un omniprésident, placé où il est, par ses amis très riches, et un mouvement d'en marcheurs qui rêve de faire de la France une entreprise.
Leur employeur, en l'occurrence, leur ministère.
Nous sommes unis et soudés derrière un homme qui s'appelle Emmanuel Macron.
Faire de la France une nation du travail. Avant d'entrer dans cet automne du travail, le sens du travail.
Moi, ma responsabilité de ministre de l'économie, c'est de garantir l'ordre public économique.
Trop tard. Ils ont perdu. Tous attendent des retours sur investissement et veulent encore plus saigner les pauvres. Il n'y a qu'à voir la chasse aux fraudeurs sociaux, alors que les fraudeurs fiscaux grimpent très haut au hit parade de Forbes. Ce président a placé à Matignon un Premier ministre encore plus jeune et plus inconsistant que lui, dont le chien est un show-show prénommé Volta. Le spectacle intégré arrive à son apogée. Nous allons bientôt élire en pole position en Europe un jeune homme de 28 ans aussi taiseux qu'un balai. Et derrière, une ribambelle de fachos, comment les appeler autrement, prête à laisser couler tous les migrants qui ont la mauvaise idée de traverser la Manche ou la Méditerranée. Et qui n'ont qu'un mot à la bouche, islamisme. Pour le reste, c'est le néant, le repli, du national-libéralisme promu à longueur d'antenne par des titulaires de cartes de presse lobotomisées. Nos vies valent mieux que leurs profits, dit un slogan vaguement suranné. L'accaparement des biens est total, on dort moins, on travaille plus longtemps. Nos temps de vie libres diminuent. Les services publics, sauf l'armée et la police, partent en quenouille. J'essaie d'éviter les vulgarités. Le capital usurpe le temps qu'exige la croissance, le développement et l'entretien du corps en bonne santé, écrivait Marx dans Le Capital. Le profit détruit nos vies. Prenons la mienne à l'instant où j'écris ces lignes, à mon bureau, derrière mon Mac. Je dois rester concentré au mécanisme. Ce sentiment soudain déprimant que parler ne sert plus à rien. Donc me taire et donner la parole à un autre.
Le son, le bruit que vous aimez?
La pluie dans les arbres.
Le mot que vous détestez?
Ministre de l'Intérieur.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire?
Ministre de l'Intérieur.
Ou fixer l'objectif impassible. Je compte 1, 2, 3. Ces 3 secondes, Plus personne ne les vivra jamais. Ce sentiment du temps qui file. Je mets une caméra au-dessus de ma tête, je fais un zoom arrière, à 1 km, j'ai disparu. À 1 000 km, la Terre a disparu. À 1 000 000 km, il n'y a plus rien à voir. Comme tout être humain, je ne suis rien. Et pourtant, je suis tout. Je parle, j'écris, je témoigne, je remplis ma vie de choses que je crois importantes. Je n'ai ni peur du vide, ni des silences, et encore moins de Darmanin. La plupart des gens trouvent ce vide flippant, car il ressemble à la mort. Ils ne savent plus quoi inventer pour fuir et se cacher. Leurs inventions sont souvent insignifiantes, comme un film de Quentin Dupieux, ou magnifiques, comme un roman de Cormac McCarthy. Mais la vie est un fait, une évidence. Je suis vivant pour encore quelques années, j'espère, même si ma cardiologue est inquiète. Je dois aimer le combat et les emmerdements. Je dois aimer râler. Je dois aimer ce que Macron nous fait subir. Vivre sous un gouvernement délirant, corrompu, suicidaire, sans vision. Suicidaire puisque le parti présidentiel perd ses électeurs et ouvre un boulevard à l'extrême droite. Non, je déteste ça. Raison pour laquelle je n'ai pas l'esprit apaisé. Mais je ne me sens pas vieillir. Combattre l'obscénité, résister aux ricanements mesquins, ne pas sombrer dans la peur ou la fatalité, c'est ma manière de rester vivant, même quand vous perdez un ami.
Il faut une vision profonde, réelle, immédiate, dramatique, qui change les choses et fasse entrer dans la réalité les espoirs en lesquels les peuples sont sur le point de ne plus croire.
Même quand vous fermez les yeux, si vous voyez des images insoutenables, des vies. Vous pouvez continuer à sourire et à garder dans le regard cette braise qui dit « Cause toujours, tocard, je ne suis pas dupe. »
Un tocard aurait dit oui tout de suite. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et à n'importe quel bloc.
Être vivant est incompréhensible, mais ça reste vraiment intéressant. Allez, salut.
Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr/soutenir. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et Peertube, et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous pour ne rien rater de nos contenus, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.